France Inter.
S'il m'arrive d'être dans le centre de Paris, je ne manque pas d'aller faire un tour à la chic librairie L'écume des pages. C'est là que j'ai été irrésistiblement attirée un soir par un livre trônant parmi d'autres et dont la couverture justifiait l'achat et sur laquelle émerge des ténèbres un homme affligé dont la moitié du corps se transmue en une substance visqueuse et blanche dégoulinant sur le sol. Dans sa main droite, un revolver qu'il semble tenir à regret et à ses côtés, une créature mi-homme, mi-insecte au faciès effrayant mais au pantalon bien repassé. Le titre du roman « Mon travail n'est pas terminé » de Thomas Ligotti. Je retourne le livre et je lis que Ligotti est un écrivain et poète très secret, voire reclus, qui construit depuis 40 ans une œuvre singulière hantée par la folie, la ruine et le cauchemar. Je suis évidemment conquise d'avance par ce roman vite dévoré qui met en scène l'élaboration et l'exécution de vengeance sanguinaire par l'employé d'une grande entreprise envers ses humiliants collègues. Kafka, Lovecraft et Jean-Pierre Martinet ne sont pas loin, c'est une jubilation. L'édition façonnée par Guillaume Meller pour le compte de son élégante maison des Monts Métallifères est magnifique, la traduction de l'écrivain Fabien Courtal excellente. Merci à eux d'avoir permis cette rencontre. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Guillaume Meller et Fabien Courtal, bonsoir.
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 Alors la question que... Enfin d'abord je vous présente. Guillaume Meller, vous êtes éditeur et fondateur des très belles éditions Monts Métallifères, ancien professeur de français et vous avez quitté l'enseignement pour vous consacrer à la traduction et à l'édition.
C'est ça.
Fabien Courtal, vous êtes enseignant, traducteur et écrivain. Vous avez publié en 2020 le livre La Société Lumière aux éditions de l'Arbre Vengeur.
C'est bien ça.
Très bonne maison d'édition aussi, dont je salue le créateur. Alors, question que je pose à tous les invités en début d'émission, à quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui, Fabien Courtal ?
J'ai assez peu pensé.
Je ne vous crois pas.
Je me suis efforcé de penser le moins possible.
Donc vous êtes un sage zen ?
Non, c'était simplement le moyen le plus efficace pour moi de lutter contre l'angoisse. Donc j'ai beaucoup regardé, très peu pensé.
Vous êtes quelqu'un d'angoissé ?
Oui.
Ça tombe parfaitement bien pour le sujet de cette émission. Guillaume Meller, à quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Je ne vais pas commencer par un mensonge. J'ai beaucoup pensé au passé aujourd'hui. Et je me suis beaucoup brassé des souvenirs heureux qui sont teintés depuis quelques jours d'une certaine mélancolie. Voilà.
Vous êtes... Écoutez, on arrête l'émission, on achète du pop-corn, on va au cinéma, cuver le spleen. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, mais quand même, on a pour mission de faire découvrir un merveilleux auteur aux auditeurs.
C'est vrai.
Bon, alors.
Bon, je reprends quelque chose de plus joyeux.
Non, il faut dire la vérité ou pas. Tout ce qui vous passe par la tête, c'est très bien.
D'accord.
C'est très bien. Sur le site de votre maison d'édition, Guillaume Meller, on peut voir que c'est une maison d'édition à la croisée des genres, des fictions qui déroutent, à la croisée des routes, des fictions qui dérangent. Et donc, je vais vous demander, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, les livres qui vous ont le plus dérangé, Fabien Courtal.
Qui m'ont le plus dérangé ?
Dans votre vie de lecteur.
Dans ma vie de lecteur, qui m'ont poussé à sortir de mes habitudes de lecture, peut-être. Les livres qui ont été pour moi des chocs. Il y a eu la découverte de Valseur. Il y a eu, on en parlait.
Oui, vous l'avez en commun, cet auteur.
Oui. Oui. À la fin des Enfants Tanneurs, la dernière phrase de ce roman, c'est, si je me souviens bien, quelque chose comme « mais venez » ou « mais entrez ». On ne sait absolument pas ce qui peut se passer ensuite. Ça s'arrête sur quelqu'un qui est supposé franchir la porte, une personne qui n'a en soi rien de si particulier. Et c'est le moment où j'ai compris qu'il n'était pas du tout nécessaire de rester attaché à la trame d'un récit pour que quelque chose de profond et de puissant se produise. Voilà.
Guillaume Meller ?
Moi, je ferai une réponse un peu plus en lien avec le texte qui va nous occuper aujourd'hui. Je pense que c'était les Carnets du sous-sol de Dostoïevski, qui ont été que j'ai lu très jeune, peut-être trop jeune, et qui m'ont fait comprendre, puisque je viens d'une petite ville de province assez paisible, et ça m'a permis de comprendre par la lecture que le mal existait et que la méchanceté existait et que la littérature avait aussi pour fonction d'embrasser ces expériences-là et d'embrasser le maximum d'expériences, dont les plus sombres et les plus terribles.
C'est parfait, puisque dans ce texte de Dostoïevski, en plus, on ne sait jamais si le narrateur est d'une lucidité extrême ou absolument fou, ou si ce n'est pas finalement la même chose. C'est ce qui sera un peu le cas dans « Mon travail n'est pas terminé » de Thomas Ligotti. Gwendoline, le morceau Pignata.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
The greatest secret, which appears in no religious doctrine and is found nowhere in the world's overburdened library of myths and fables, nor receives the slightest mention in any philosopher's system or scientist speculation. The greatest secret, perhaps the only secret, is that the universe, all of creation, owes its existence to a degenerate little town. And if it were possible to strip away the scenery that surrounds us, to pull up the landscape of every planet, to rip away the skies and shove aside the stars and suns, to tear from ourselves our own flesh and delve deep into our bones, we would find it standing there eternal, the origin of all things, visible or invisible, the source of everything that is or can be, this degenerate little town.
Qu'est-ce qu'on entend, Guillaume Meller, Fabien Courtal? Fabien Courtal.
Ce qu'on entend, c'est la voix de Thomas Ligotti.
Très rare.
Très, très rare. À ma connaissance, on l'entend dans cet enregistrement. On l'entend également dans un autre enregistrement de Current 93 où il récite un de ses poèmes à la fin d'un album dont le nom m'échappe. Et on l'entend également dans une production qui était supposée accompagner le script d'un épisode qui était supposé devenir un épisode d'X-Files, si je me souviens bien.
Oui, avec Mulder et Scully, bien sûr.
Il a retravaillé tout ça, parce que manifestement, ça n'avait pas la moindre chance de devenir jamais un épisode d'X-Files, et il a décidé d'accompagner ça de 6 morceaux, je crois, qu'il a composé lui-même, qu'il a joué lui-même à la guitare, et sur lesquels on entend sa voix, mais il ne chante pas, hein, il se contente de parler. Parce que manifestement, il ne doit pas avoir une voix de chanteur à ce point quand même. Mais donc, ce qu'on entend, c'est This Degenerate Little Town, qui est produit par David Tibbett, le leader du collectif Current 23. Et il s'agit donc d'un long poème de Thomas Ligotti, ou plutôt de 16 poèmes assemblés en un tout. Voilà. Accessoirement, ça a été pendant très longtemps la bande-son de mes réveils.
Oh, waouh!
Ouais. Je considère que prendre son petit déjeuner et manger ses tartines en écoutant Thomas Ligotti, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer une journée.
Ah oui, tout ne peut être plus dans la pulsion vitale par la suite.
Complètement.
Alors,
on vit un enchantement ensuite.
Bah j'imagine. Ouais. Quand on sort du cercueil le matin. Mmh. Alors, on sait de Thomas Ligotti qu'il est un écrivain américain né en juillet 53 à Détroit, qu'il a 70 ans aujourd'hui, oui. Qu'il a écrit des nouvelles, des scénarios, des poèmes, qu'il a travaillé dans l'édition, que quelques-unes de ses nouvelles d'épouvante ont été traduites en français dans des recueils collectifs dans les années 90, mais que le premier recueil de nouvelles uniquement de lui a été traduit en France en 2014 par Anne-Sylvie Omacel aux éditions Dystopia, oui. Chant du cauchemar et de la nuit. Est-ce ainsi que vous l'avez découvert? Puisque j'ai vu qu'il était déjà publié en Europe. Pourquoi arrive-t-il si tard en France?
Alors, pourquoi arrive-t-il si tard en France? C'est une grande question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Ensuite, ce qui a permis de découvrir Ligotti en France, comme ailleurs dans le monde, parce que Ligotti jusque-là était quand même un auteur franchement confidentiel, c'est la série True Detective, la première saison. Voilà.
Qui s'en est inspiré, mais il y a eu quelques attaques.
Voilà, on a considéré effectivement qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre du plagiat. Honnêtement, si plagiat il y a eu, il a quand même bien rendu service à l'œuvre de Ligotti, parce que c'est à partir de là, effectivement, qu'on a commencé à s'y pencher aussi en France. Donc, c'est à partir de là que, pour moi aussi, l'aventure Ligotti a commencé.
À partir de cette série?
Oui, c'est la première fois, effectivement, que j'entendais... Enfin, c'était pas la première fois que je croisais son nom, mais c'était la première fois que j'en apprenais un peu plus sur ce que pouvait contenir son œuvre. Et je me suis donc précipité sur la seule traduction disponible, qui était donc Les Chants du cauchemar et de la nuit. Et à partir de là, j'ai dévoré le reste en anglais.
Thomas Ligotti, on parle de son style comme du style weird fiction, fiction bizarre. Qu'est-ce que c'est, Fabien Courtal?
Alors, ça, c'est vraiment, vraiment une question compliquée. Dans la mesure où Ligotti lui-même ne se reconnaît pas tellement comme un écrivain de weird fiction. Lui se reconnaîtrait plutôt dans la tradition de ce qu'on pourrait appeler les écrivains d'horreur métaphysique. Pour lui, en fait, il y a deux types d'écrivains d'horreur. Ceux qui cherchent à divertir ouvertement leurs lecteurs en leur proposant des peurs faciles. Et ceux qui cherchent plutôt à leur mettre sous le nez des évidences qu'ils n'ont pas envie de voir. Dans la deuxième catégorie, ils rangent évidemment Poe, Lovecraft. Et généralement, on a tendance à associer maintenant au nom de Poe et de Lovecraft le nom de Ligotti, qui semble être le plus pur continuateur de cette tradition. La weird fiction, à partir de là, si jamais on en donne une définition un petit peu plus large, oui, c'est généralement ce qu'on pourrait... Enfin, pour nous, Français, la définition qu'on donne du fantastique collerait assez bien à ce que c'est que la weird fiction. L'intrusion dans un monde qui nous est, semble-t-il, familier, d'éléments d'étrangeté.
Thomas Ligotti est aussi amateur de Sioran, de Burroughs, de Thomas Bernhard, que des êtres lumineux et très très drôles. Il a une vision très pessimiste de l'existence. Guillaume Meller, comment s'est fait la publication de cet ouvrage merveilleux qui est paru le 3 novembre 2023? Comment vous êtes-vous rencontrés? Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontrez avec Fabien Courtal physiquement.
Absolument. C'est Guillaume la première Mellard. Fois qu'on se rencontre, mais on a été en échange par mail et par téléphone régulièrement au cours des derniers mois. Moi, Ligotti, c'est un écrivain que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années avant même qu'il y ait la traduction d'Anne Silvio Massel par des amis étudiants états-uniens qui m'avaient parlé de lui et qui m'en avaient parlé comme d'un auteur vraiment incontournable de la littérature contemporaine. Et à l'époque, je n'avais ni l'intention de devenir traducteur, ni encore moins éditeur. Et donc, j'avais un peu laissé de côté. Et quand je suis tombé sur ce texte, My Work Is Not Yet Done, j'ai été pris d'une sorte d'euphorie immédiate en me disant qu'il fallait absolument que ça soit publié, un peu égocentriquement que ce soit moi qui le publie. Et j'avais même envie de le traduire. Et donc, j'avais commencé à le traduire.
Vous êtes donc d'anciens rivaux.
On est donc d'anciens rivaux. Mm-hmm. Nous sommes donc d'anciens rivaux puisque une fois que j'ai obtenu les droits, alors c'est une des raisons pour lesquelles Ligotti n'est pas plus traduit en français aussi, n'est pas plus publié, c'est qu'il est extrêmement difficile à atteindre physiquement. Enfin, physiquement, disons, à contacter.
Est-ce que vous l'avez déjà contacté? L'avez-vous vu, rencontré? Lui avez-vous parlé?
Alors,
en rêve.
Fabien Courtal.
Moi, j'ai passé 6 mois à attendre la réponse d'une agence de droit, enfin voilà, qui était censée avoir les droits de Ligotti, et puis ils savaient pas du tout. Alors ils savaient pas qui était ce type déjà, et puis ils savaient pas qui s'en occupait. Ils m'ont fait marronner comme ça pendant 6 mois. Et finalement, j'ai envoyé des mails à tous les gens qui avaient parlé à Ligotti de près ou de loin. Donc, il y a des professeurs d'université, des gens qui tiennent des sites de fans, des choses comme ça, des journalistes. Certains m'ont dit qu'ils s'étaient engagés à ne jamais donner le mail de Ligotti à qui que ce soit. Certains m'ont même dit qu'ils l'avaient détruit pour être sûr de ne pas avoir à succomber à la tentation de divulguer le mail de Ligotti. Et finalement, voilà, une de ces personnes a transmis mon mail à Ligotti. Et ensuite, on a été en échange et j'ai pu obtenir les droits. Et voilà. Et quand Fabien a appris que j'avais eu les droits, il m'a envoyé ses propres traductions de Ligotti. J'avais évidemment décidé de l'évincer. Et puis quand j'ai lu ses traductions, je me suis dit que c'était vraiment ridicule, que j'allais me ridiculiser, parce que sa traduction est absolument, absolument splendide, et que la mienne était quand même bien inférieure.
Je confirme que la traduction est splendide. Guillaume Mellard, pouvez-vous nous dire un petit mot sur la couverture qui a attiré mon attention et qui est la raison grâce à laquelle j'ai découvert Ligotti, qui est signée de l'auteur de bande dessinée illustrateur Ludovic de Burme.
En fait, c'est un livre assez cruel et j'aime beaucoup l'œuvre de Burme dans laquelle qui est quelqu'un qui pour moi excelle à dessiner la cruauté, ce qui est pas si facile que ça de dessiner la cruauté. Il a fait notamment 2 bandes dessinées qui s'appellent Trois fils et un père vertueux, qui sont terrifiantes. Il faut pas croire que c'est pour les enfants, sinon vous allez leur faire des cauchemars toute leur enfance.
Il y a du grotesque aussi, de la cruauté.
Et du grotesque. Et donc, j'ai voulu faire appel à De Burme, qui a accepté très, très gentiment, qui fera d'ailleurs les prochaines couvertures de cette collection. Et il avait carte blanche, donc il a lu le texte, et il a choisi cette scène de fonte humaine, de soupe humaine, voilà, pour cette couverture, ce qui était...
Alors, juste avant que je me tourne de nouveau vers vous, Fabien Courtal, pour rentrer dans l'histoire, j'aimerais qu'on parle du texte introductif, Guillaume Mellard, parce que quand on ouvre le livre, il y a un texte qui a achevé de me convaincre, évidemment, de lire ce livre, c'est le premier titre de la collection PB82, c'est le plomb dans le tableau périodique des éléments. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire le texte imprimé à la première page du livre ?
Alors, PB82, c'est le plomb dans le tableau périodique des éléments. Un métal dense, sombre, toxique, pour une collection de fiction qui ne le seront pas moins. Contre l'hégémonie du feel good, nous croyons en effet aux vertus émancipatrices du feel bad. Il n'y a que l'inconfort qui nous questionne, il n'y a que l'inconnu qui nous fasse réfléchir. Et aujourd'hui, moins que jamais, la littérature n'a vocation à rassurer, réconforter, consoler, en un mot, à nous faire nous sentir bien et nous rendre le réel plus acceptable. Cette collection est donc dédiée aux fictions sombres, glauques, violentes, plombantes, qui explorent les galeries les plus noires de l'existence humaine. Cela n'exclut ni le plaisir de la lecture, ni l'humour, mais c'est alors l'humour absurde des bouffons qui nous sauve de la folie devant l'horreur. Pour le premier titre de la collection PB82, cette horreur a pour nom le capitalisme managérial.
Vous croyez, Guillaume Mellard, à l'aspect cathartique des œuvres ?
Je ne crois pas tellement à l'aspect cathartique des œuvres. En fait, j'ai eu l'idée de cette collection à un moment où des libraires m'avaient dit, plusieurs libraires m'ont dit très peu de temps, que la plupart de leurs clients leur demandaient des livres faciles à lire qui font du bien. Or, moi, je travaillais conjointement sur ce livre de Thomas Ligotti et un autre qui s'appelle Viande, qui est une dystopie cannibale tchèque, enfin une dystopie tchèque des années 80, sur une société totalitaire où il ne reste plus rien à manger que de la viande. Et ces deux livres ont la particularité d'être racontés du point de vue d'un bourreau. Donc voilà, c'est pas le feel bad pour le feel bad ou pour la vertu cathartique, ça voudrait dire encore que même le sentiment d'inconfort finalement fait du bien. Or en fait, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des expériences de l'horreur qui sont indépassables, il y a des tristesses insondables, il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Et il y a une méchanceté impardonnable. Et la littérature doit aussi embrasser ces choses-là et donner de la place aux bourreaux. Parce que je pense qu'il faut aussi écouter les bourreaux, pas dans le sens où leur donner de la valeur à leurs paroles, leur trouver des excuses, des choses comme ça. Mais si on ne comprend pas les sources ou ce qui peut provoquer de la violence et de la cruauté, si on n'admet pas que la cruauté et la violence font partie de l'expérience humaine, font pleinement partie de l'expérience humaine, parfois on comprend, je crois, pas grand-chose de manière générale à l'existence.
Mmh. Et surtout, on risque d'être... opinez du chef.
Oh oui.
Oui, bah écoutez, j'opine du chef aussi, puisque c'est vrai qu'on est dans une époque où on dirait qu'on photoshoppe l'âme des êtres humains en voulant enlever tout ce qui ressemblerait de près ou de loin à la notion de mal. Mmh. Or, ça rend les choses encore plus dangereuses, apparemment. Eh bien, on va rentrer dans le texte promis, mais d'abord, évidemment, un peu de musique.
Keep me on the tippy toes.
The Kills, 103.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Je suis avec Guillaume Meller et Fabien Courtal pour évoquer l'auteur américain Thomas Ligotti et notamment le roman « Mon travail n'est pas terminé » avec les nouvelles d'horreur en entreprise qui le suivent dans cette magnifique édition publiée aux éditions des Monts Métallifères. Fabien Courtal, votre traduction est très belle, elle est sophistiquée, merci, lyrique, drôlatique, noire évidemment, car tout est noir. Mais justement, c'est la question que je vous pose, est-ce que tout est véritablement noir chez Thomas Ligotti ?
Oui.
D'accord. Sans aucune ambiguïté.
Sans aucune ambiguïté.
Et vous pensez que c'est sa façon de voir le monde également ou qu'il la renforce dans son écriture ?
Oui, oui.
Très bien. Soyons crépusculaires jusqu'au bout.
Si seulement je pouvais sérieusement croire, à la toute fin, n'avoir vu aucune de ces horreurs, croire que le choc mental était la cause de toutes mes suppositions, et pour comble la vision ultime qui avait provoqué cette course pour m'enfuir de la ferme désolée d'Aclay et démarrer sa voiture en pleine nuit, ce serait ignorer les faits les plus élémentaires de ce qui vint clore cette expérience. Aujourd'hui encore, il ne m'est rien possible de prouver quant à ce que j'ai vu et entendu.
Chuchotement dans la nuit de Lovecraft, adapté pour la radio par Christophe Hoquet et François Bon sur France Culture en 2016. On dit souvent que l'horreur lovecraftienne, elle est justement effrayante parce qu'en fait elle n'est jamais frontale. Il décrit, on imagine le pire finalement, c'est l'imaginaire du lecteur qui fait le travail et c'est assez dégoûtant ce qu'il peut faire comme travail. Comment décririez-vous, Fabien Courtal, l'horreur ligotienne ?
Alors déjà, l'horreur ligotienne, elle est d'autant plus difficile à qualifier qu'elle change de recueil en recueil. Les mécanismes de l'horreur ne sont pas les mêmes. Si jamais je parle uniquement de l'horreur telle qu'on l'aperçoit dans « Mon travail n'est pas terminé », c'est une horreur qui a plusieurs étages, en fait, ou plutôt qui s'approfondit progressivement. La véritable horreur ligotienne, elle se cache finalement en toute chose. C'est pour ça que j'ai répondu de façon aussi catégorique à la question que vous me posiez tout à l'heure. Chez Ligotti, ce qui est horrible, c'est que quelque chose existe. Et le dévoilement de cette horreur, c'est tout le travail de l'écrivain. Petit à petit, il nous conduit jusqu'au moment où, de toute façon, on est obligé d'avoir sous les yeux ce constat atroce que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit, il n'y a strictement rien qui ne soit autre chose que cette noirceur.
Fabien Courtal, vous signez l'avant-propos et vous parlez de théâtre, de l'insoutenable médiocrité à échelle cosmique et de la prédation ordinaire de l'individu par un collectif qui l'épuise et l'abstrait jusqu'à la pure négation. Est-ce que vous pouvez faire une ébauche de l'intrigue pour les auditeurs avant de lire le début ?
Si jamais je dois résumer rapidement, ébaucher l'intrigue, voilà ce que je dirais. Franck Domigno est un petit homme travaillant dans une très grande boîte, dans laquelle il est très heureux d'avoir pratiquement disparu, finalement. Il a un poste qu'il est très content d'occuper, et il se contenterait très bien d'occuper ce poste, très longtemps. Jusqu'au jour où il a une idée, très mauvaise idée d'en avoir une, parce que ses collègues, les autres chefs de service, n'ont plus qu'une seule idée à leur tour, c'est de s'approprier l'idée de Franck. Et c'est là qu'on comprend que finalement, ces activités qui sont supposées être proprement humaines sont très animales. Et donc, Franck devient un animal traqué. Il finit par en éprouver un peu de rancune. Et il se met en tête de se venger de ceux qui n'ont plus d'autres priorités que de lui piquer son idée. Et à partir de là, je vais m'arrêter parce que ça va beaucoup plus loin que ce que Franck avait imaginé au départ.
Ah oui.
Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
Est-ce que vous acceptez, Fabien Courtal, de lire le début que vous avez donc traduit de « Mon travail n'est pas terminé » de Thomas Ligotti ? La première phrase est irrésistible.
J'avais toujours eu peur.
Oui.
J'avais toujours eu peur. Mais pour complaisant que ça paraisse, je n'ai jamais cru devoir en éprouver ni regret ni honte, en dépit de la souffrance insupportable qu'un tel trait de personnalité pouvait me causer. J'avais l'impression que même les meilleurs des êtres humains, pour ce que vaut l'être humain, trahissaient malgré leurs efforts une part d'angoisse et d'insécurité, sinon de vraie panique. Il n'en reste pas moins qu'il faut être porc plus qu'à moitié pour survivre même un seul jour sans être affecté par une commotion d'une sorte ou d'une autre, si l'on met de côté ceux qui s'entêtent à courir au devant du danger, attirant hardiment l'attention sur eux, comme s'ils agitaient les bras en l'air tout en clamant à l'adresse de l'auditoire. « Eh, regardez, c'est moi là-haut. Vous avez vu de quoi je suis capable. C'est moi seul que vous devez abattre. Moi seul. »
Alors, ce héros ou cet anti-héros est un être sur lequel la mascarade humaine ne prend absolument pas. Je pense par exemple à cette phrase quand il regarde un des 6 autres chefs de département qui sont Barry, Harry, Perry, Marie, Kerry, Sherry et Richard, alias le docteur. Je laisse les auditeurs découvrir pourquoi. Les traits de Lisa ont affiché un début de contrariété. C'était très bien fait, très réaliste. En fait, Thomas Ligotti est fasciné par les mannequins, les poupées, les masques. Est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect, s'il vous plaît, Fabien Courtal?
C'est très simple à expliquer. Pour Ligotti, mannequin, poupée, masque, c'est nous. Aucun être humain n'est autre chose, selon lui, et pas uniquement dans le champ de la fiction, qu'un faux-semblant. Et ce qu'il peut y avoir de plus horrible pour ces faux-semblants, c'est de découvrir justement qu'ils en sont. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des nouvelles de Ligotti, ce moment où le narrateur, souvent, s'aperçoit que le monde est un vague décor et que lui-même n'est jamais qu'un accessoire dans ce décor.
Le texte est très noir, très cynique, le mot le plus récurrent c'est d'ailleurs ténèbres, mais il faut dire aussi qu'il est très drôle. Guillaume Meller, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de ce texte qui est l'un de mes préférés? En fait, évidemment, tous les personnages décrits par Ligotti en prennent pour leur grade, c'est, personne ne trouve grâce à ses yeux. Il a un ami, mais on pourrait se demander qui est cet ami, c'est un peu mystérieux puisqu'il s'appelle Franck comme lui.
Il y a un autre personnage qui trouve grâce à ses yeux.
Oui, c'est la patronne du diner en bas de chez lui, Liliane. Ouais. Guillaume Meller, est-ce que vous pourriez nous lire l'extrait où le narrateur décrit l'un de ses confrères, donc l'un de ses collègues, qui est Perry et qui a quelques velléités musicales?
Ce n'était là que l'un des composants de cette image de jazzeux qu'apparemment Perry revendiquait et qu'à l'évidence il aurait voulu imposer à son entourage, quoique de façon chaotique et peut-être même sans beaucoup de conviction. Perry, au fond, n'était tout simplement pas plus jazzy que ça. Il était assez averti et fin pour le savoir. Il n'en restait pas moins que pour quelques mystérieux motifs, Perry endossait de bon gré ce costume grossier de Mr. Jazz, lequel consistait en une poignée de gadgets, un ou deux gestes stéréotypés et un masque en latex. Outre son jeu au piano et ce qu'il trouvait à raconter du dernier CD qu'il venait d'acheter, le trait le plus saillant de ce personnage jazzy était ses lunettes, la réplique exacte de ses bidules à monture épaisse et à verre foncé qu'arboraient les musiciens de cool jazz dans les années 50, sur les photographies figurant au dos de bien des enregistrements parmi les plus fameux de cette époque. Certes, moi aussi je portais des lunettes, d'un design plus contemporain et dont les verres étaient vaguement ambrés. À la différence que moi, j'avais adopté cet accessoire sur le conseil d'un opticien.
Tout à l'heure, j'ai parlé pour présenter Thomas Ligotti de Kafka, Martin et Lovecraft, mais j'aurais pu ajouter Houellebecq pour La vie en entreprise et pour certaines phrases absolument désespérées, comme par exemple « Le déclin programmé de ces frêles patries de chair dont chacun de nous est un habitant ». Ou alors une autre vision qu'on retrouve à la fin d'une nouvelle qui fait suite au roman « Mon travail n'est pas terminé » et qui pourrait être la vision de l'univers de Thomas Ligotti, « Plan prolongé sur l'univers, il n'y a personne derrière la caméra ».
C'est très clairement la vision que Ligotti a de l'univers. Quant à la proximité entre Ligotti et Houellebecq, je suppose que le pont se fait justement par l'intermédiaire de Lovecraft.
Oui, bah évidemment, il y a un livre, d'ailleurs un livre formidable de Houellebecq qui s'appelle H.P. Lovecraft, Contre la vie, contre le monde. Mmh. On pourrait qualifier de même la vision de Ligotti.
Assurément.
Et vous, Fabien Courtal?
Pas complètement.
Ah. Et vous, Guillaume Meller?
Moi, je crois que je suis raisonnablement plus optimiste que Fabien.
Vous n'êtes pas influencé par les textes que vous publiez, par leur noirceur? On a dit tout à l'heure, évidemment, que nous étions contre les feel-good books, puisque nous sommes pour la grande littérature. Mais vous, est-ce que vous êtes... est-ce que le fait de n'être entouré que de ténèbres, de noirceur d'âme, influence votre humeur? Votre vision du monde.
Il faudrait être un peu idiot pour être optimiste. à une échelle plus vaste qu'à la sienne propre. On peut être optimiste sur le déroulement de sa journée, des semaines et des mois à venir. On peut espérer être raisonnablement joyeux, avoir des belles expériences, connaître des choses très chouettes. Mais au-delà de ça, ça me paraît presque un peu prétentieux.
On peut espérer se divertir. On peut difficilement espérer plus.
Bon, eh bien écoutez, on arrive justement à votre choix musical. C'est Nick Cave et c'est Stagger Lee qui est un classique tiré d'un fait divers, évidemment un fait meurtrier. Hein, et c'est d'ailleurs sur l'album Murder Ballads. Pourquoi ce choix ?
Nick Cave a consacré un album entier donc à ce qu'il appelle les Murder Ballads, donc des chansons qui parle de meurtre, qui dépeignent des personnages de criminels et de tueurs. Et Stagger Lee, c'est en quelque sorte la course désespérée d'un tueur qui... Ça, il me semblait que ça se prêtait plutôt bien à Ligotti. Et Nick Cave est, de manière générale, un chanteur que j'aime énormément et dont on ne peut pas dire qu'il soit très souriant.
Alors on l'écoute tout de suite et j'en profite pour faire une recommandation aux auditeurs puisque un des ouvrages de Nick Cave, et bien sur la couverture figure une peintre polonaise qui s'est spécialisée dans les choses gothiques et horrifiques. Ça va très bien avec le sujet de l'émission, c'est Alexandra Waliszewska. Stagger Lee, Nick Cave.
It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Stagger Lee. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Stagger Lee. His woman threw him out on the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. Stagger Lee. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Stagger Lee. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am. And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn to Stagger Lee. He said, well, bartender, it's a plain to see. I'm the bad motherfucker called Stagger Lee. Mr. Stagger Lee. Well, the barkeeper said, yeah, I heard your name down the way, and I kick motherfucking asses like you every day, Mr. Stagger Lee. Well, those were the last words that the barkeeper said, 'cause Stag put four holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. Yeah. She struts across the bar, hitching up her skirt over to Stagger Lee. She's starting to flirt. Oh, Stagger Lee. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead. Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head. She said, you ain't look like you're scarred in quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime, Mr. Stagger Lee. But there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before my man Billy Dilly comes in, Mr. Stagger Lee. I'll stay here till Billy Dilly comes in, till time comes to pass. And furthermore, I'll fuck Billy Dilly in his motherfucking ass, said Stagger Lee.
Staggerly de Nick Cave dans Grand Canal sur France Inter. Je suis avec le traducteur Fabien Courtal et l'éditeur Guillaume Meller. On vient d'évoquer l'auteur américain Thomas Ligotti. Et j'aimerais qu'on évoque aussi quelques autres livres de votre maison d'édition, Guillaume Meller, la maison d'édition des Monts Métallifères. Vous étiez professeur et vous avez arrêté pour traduire L'homme à histoire de Malcolm Bradbury. C'est la première publication de votre maison d'édition et la première fois qu'il est traduit en français.
Absolument. Alors j'ai arrêté le métier d'enseignement pour d'autres raisons. Je suis devenu traducteur par la suite. Mais le premier livre que j'ai voulu publier, en fait, c'était Exemplaire unique de Pavitch.
Et vous l'avez publié d'ailleurs, un polar onirique.
Un polar onirique au sans fin. Milorad Pavitch, auteur serbe pour lequel j'avais déjà une fascination, une admiration immense, et dont il existait il existe encore d'ailleurs des inédits. Et en parallèle, effectivement, je traduisais ce livre, L'homme à histoire de Malcolm Bradbury, que j'ai découvert par David Lodge, qui en parle dans L'art de la fiction, un livre que tous les étudiants en lettres normalement lisent en première année. Et voilà, que j'avais prévu de proposer à d'autres maisons d'édition, et puis je me suis retrouvé donc avec deux textes inédits en français que j'aimais beaucoup, et avec Lila Carpentier, qui j'ai créé la maison d'édition, qui est graphiste, on a décidé de les publier nous-mêmes.
Et justement, c'est Lila Carpentier aussi qui signe le graphisme de deux volumes absolument magnifiques de dessins poétiques et fantaisistes de l'anglais William Heath Robinson. Volume 1, quelques idées simples pour profiter pleinement de son temps libre. Volume 2, quelques idées simples pour se faciliter la vie. Et dans la présentation, il est écrit que c'est entre Jacques Tati et le concours Lépine.
Oui, oui. Alors ça aussi, il y a eu vraiment un concours de circonstances. On a découvert plein de choses super en même temps. Et en fait, William Heath Robinson, j'ai découvert en faisant une traduction, un truc un peu bizarre, parce que c'était une traduction de Laura Mulvey, théoricienne féministe du cinéma. Et elle évoque une scène d'un film de Godard en disant que c'est Heath Robinsonesque. Donc j'ai regardé ce que c'était, et donc je suis tombé sur les dessins d'Heath Robinson, donc dessinateur d'humour de la première moitié du XXe siècle, qui s'est fait connaître surtout pour ces machines complètement délirantes, farfelues, qui sont extrêmement, extrêmement complexes et qui ne servent absolument à rien. Sinon à manger des petits pois ou tester des plumes pour qui chatouillent les pieds ou vérifier la balistique des confettis, des choses comme ça. Et il n'y avait pas d'édition en français de ces dessins. Et donc Lila a travaillé pendant 3 ans pour faire cette anthologie, donc en 2 volumes, voilà, dont le premier volume est malheureusement épuisé et les fonds des Monts Métallifères n'étant pas infinis, on va pas pouvoir le réimprimer tout de suite, mais le deuxième volume est sorti avant Noël dernier et reste tout à fait accessible.
Et un petit mot sur un ouvrage que j'ai adoré, qui nous remet un peu dans une cruauté ligotienne. Enfin, je dirais que c'est un Daniel Harms moderne. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Harms, qui
Évidemment.
Est le précurseur de l'absurde russe que j'adore. C'est Linor Goralik, 34 récits très courts et assez courts. C'est cruel, désespéré, parfois sordide ou drôle, toujours surprenant et original. Des épidémies de suicide chez des enfants conseillés par des adolescents, quelqu'un qu'on prend pour un enfant au début du récit, puis on se rend compte en fait que c'est un vieillard fou.
Oui, un enfant qui retrouve le goût de la vie auprès de ses ravisseurs. Oui, alors Linor Goralik, c'est une autrice donc qui est russophone et qui publie en fait depuis le début des années 2000 sur son blog, donc en libre accès, des textes qui flash fiction, donc de récits très courts et qui sont assez populaires dans la jeunesse moscovite. Et c'est effectivement des textes qui peuvent ne faire même qu'une seule ligne. Ils font quelques lignes à quelques pages. Et en fait, chacun de ces textes nous plonge dans l'esprit d'un personnage à un moment de crise, un moment de crise profonde. Et ce que j'aime beaucoup dans ces textes, c'est qu'ils font confiance à l'intelligence du lecteur. Et de manière générale, moi, j'aime la littérature qui fait confiance à l'intelligence du lecteur et qui ne dit pas tout, qui ne va pas combler tous les espaces, qui ne va pas nous dire toutes les biographies, tous les contextes et qui nous dire comment comprendre les choses. Et là, les textes de Goralik, en fait, on n'a pas les éléments de contexte, on ne sait pas le nom des personnages, on voit parfois juste, ils se mettent à pleurer.
Souvent.
À nous de projeter des choses, d'imaginer pourquoi ils se mettent à pleurer. Il y a un personnage qui juste sort des robes et il voit que ça ne suffit pas. Et on ne sait pas, est-ce que la personne en question est morte, est partie, est-ce qu'il l'a tuée, est-ce que... Voilà.
Fabien Courtal, vous avez publié aux éditions L'Arbre Vengeur, La Société Lumière, et puis on peut lire sur leur site, à propos de vous, croyant peu au récit, il lit des pages plutôt que des livres et s'efforce d'écrire d'eux-mêmes.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça signifie que je supporte difficilement de penser à des personnages quand j'écris. Et je supporte difficilement de penser à des intrigues quand j'écris. La seule chose qui m'intéresse réellement, c'est le rythme.
Donc c'est presque musical, c'est presque le jazz qu'affectionne Jazzy Perry.
La mais comparaison est presque fâcheuse.
Elle est fâcheuse, je la regrette évidemment. Du côté positif, si un tel mot peut s'entendre dans une telle émission de noirceur.
En tout cas, vraiment, oui. Dans les textes qui sont rassemblés dans ce recueil, la seule chose qui compte réellement pour moi, outre le fait que, mine de rien, ce rythme sert tout de même un propos globalement très sombre.
Ça ne m'étonne pas, bizarrement.
Non.
Et vous non plus.
Non, ça ne m'étonne vraiment pas. Moi, ce que j'aime vraiment travailler, c'est la langue elle-même.
Fabien Courtal, pouvez-vous nous dire un mot sur la revue de littérature et cétacés intitulée « La femelle du requin » ?
Oh, avec plaisir. Et je sais qu'il y en a quelques autres qui seront contents que je dise un mot sur « La femelle du requin ». C'est une revue à laquelle je participe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Je n'en suis pas le membre le plus actif. Mais bon, je suis toujours là. Et La femelle du requin est une revue qui paraît les bonnes années trois fois, les années un petit peu moins convaincantes deux fois. Et chaque numéro est constitué de la manière suivante. Il y a un petit cahier qu'on appelle cahier création ou cahier fiction, dans lequel on fait paraître des textes qui nous sont adressés par des contributeurs extérieurs. Et la plus grosse partie de la revue est consacrée à deux rencontres avec des écrivains. Généralement, un écrivain dont l'œuvre est relativement abondante, un autre dont l'œuvre l'est un peu moins. Et ces entretiens sont des entretiens fleuves. On reste en général plusieurs heures en compagnie des écrivains en question. Donc il y a un énorme travail derrière.
Comme les mythiques interviews de The Paris Review quand c'était merveilleux.
Je ne pense pas que ça a été au départ le modèle. Mais effectivement, la comparaison a déjà été faite. Ouais.
Je me rattrape pour la mauvaise comparaison d'avant. Vous avez un projet d'autres livres, Fabien Courtal ?
Je suis en train d'assembler méthodiquement et lentement d'autres textes, sachant que malheureusement, je sais très bien que ce que j'écris ne va pas vraiment déclencher un enthousiasme délirant chez les éditeurs qui ont besoin de vivre. Ouais. Et je ne les aide pas.
Je peux dire que
Guillaume
Meller. Fabien m'a envoyé ses textes et c'est vrai qu'il y a un dilemme, surtout pour un petit éditeur qui publie très peu, c'est qu'il faut évidemment faire la balance entre l'intérêt des textes et la qualité des textes et l'aspect commercial. Et voilà. Mais je
vais réécrire tous mes textes avec des happy ends.
Non, pas de menace.
Ça sera pas chez moi.
Guillaume Meller, qu'est-ce qui est dans les tuyaux là aux éditions des Monts Métallifères ?
Alors, il y a un projet qui me tient très à cœur, qui est l'édition en français des œuvres de Amy Hennings, dont on a fait paraître le premier roman qui s'appelait Prison, qui a été paru en janvier 2021.
Dont Herman Hesse fait l'éloge.
Herman
vous rappeler qui
Je vais rappeler, oui.
Amy Hennings.
Donc, Amy Hennings, c'était une danseuse, chanteuse, comédienne, poétesse, marionnettiste du début du XXe siècle, qui est connue notamment pour avoir cofondé le mouvement Dada avec Hugo Ball, son mari. On connaît très bien Tzara, Hugo Ball, Jean Harpe et Duchamp, les continuateurs plus populaires, mais on mentionne jamais Amy Hennings quand il s'agit du mouvement Dada. Or, elle était cabarettiste, elle était danseuse, donc c'est un peu elle qui a initié la performance Dada. Elle était donc voilà, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a une place importante en fait dans l'histoire de la performance. Et elle a écrit plusieurs romans autobiographiques. C'était quelqu'un qui avait une vie extrêmement marginale, qui était éperdument libre et qui refusait toute forme de contraintes. Et donc voilà, Prison, elle raconte son expérience de la prison. Et La flétrissure, qui paraît en même temps, qui est un roman un peu plus gros, elle parle de ses années de misère, de galère, et elle raconte notamment son expérience de la prostitution. Voilà, mais de manière extraordinairement humaine pour le coup, et même si elle reste très désespérée, elle s'ouvre vraiment, elle ouvre sa parole aux autres et à ses camarades d'infortune, si on peut dire. Et c'est très très beau.
Merci beaucoup Guillaume Meller.
Merci à vous.
Merci Fabien Courtal.
Merci à vous.
Je rappelle que « Mon travail n'est pas terminé » de Thomas Ligotti et les autres ouvrages évoqués ce soir sont publiés aux éditions des Monts Métallifères et ce qu'on vient de citer, « La flétrissure » d'Amy Hennings ainsi que la réédition en poche de son roman « Prison ». Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Laurent Baudouin.